Donc le travail, c'est un impératif catégorique, hein, travailler plus pour gagner plus, mais surtout, parce que d'ailleurs très souvent on ne gagne pas beaucoup en travaillant ainsi, mais surtout bon, pour alimenter la productivité des entreprises, gagner de la plus-value sur le travail à n'importe quel prix, maximiser les bénéfices du capital, etc. Alors, par rapport à cette position qui, je crois, on peut le regretter, mais a le vent en poupe, quelle est la position de gauche? Et je trouve que la position de gauche risque d'être prise à contre-pied parce qu'elle aussi, elle repose largement sur une valorisation du travail, hein, comme le travail, comme le socle à la fois de l'utilité sociale et de la dignité du travailleur, et ça n'est pas seulement Marx, et personnellement, moi j'ai toujours soutenu une certaine centralité du travail, en particulier il y a quelques années, mais ça paraît très loin maintenant, lorsque flambaient les discours, que d'ailleurs j'ai toujours trouvé un peu aberrants, mais enfin les discours sur la fin du travail, eh bien... Je pense que ces discours sont inconsistants. Je pense que on n'est pas du tout dans la fin du travail. Mais alors, si on pense que le travail est et demeure une valeur essentielle, comment ne pas tomber dans cette inconditionnalité actuelle du travail orchestrée par la pensée de gauche? Alors, si on met entre parenthèses la possibilité de la révolution, et j'emploie un euphémisme en disant mettre entre parenthèses, et on va certainement en discuter, mais en tout cas, si on pense que la révolution au sens d'un bouleversement complet des rapports de production et de l'abolition du salariat n'est pas pensable, du moins dans un avenir prévisible, cela signifie que nous avons fondamentalement affaire au travail et au marché, et que la pensée de gauche est ici de réguler le marché, hein, pour le rendre compatible avec certaines exigences de stabilité, de sécurité, de protection qui assurent une certaine indépendance sociale et une certaine dignité aux travailleurs. Et alors, c'est dans ce cas de figure que je me place, parce que je pense, sans doute en regrettant qu'il n'y en a pas d'autres, mais donc ce qui m'oblige à avouer avec une certaine honte, peut-être, que je suis réformiste et que je crois que la seule alternative à l'hégémonie du marché, c'est de construire une sorte de réformisme de gauche qui soit un réformisme aussi radical que possible, si ces mots ne pêchent pas trop ensemble. Mais c'est pourquoi, alors pourquoi est-ce que je pense qu'il n'y a pas d'autre option que celle-là? Parce que je pense qu'il n'y a pas d'alternative crédible au marché, et qu'on ne peut pas penser le présent et sans doute l'avenir de la modernité sans une présence forte du marché. Hein, le marché, bon, il est là, il est bien là, il ne nous demande pas d'ailleurs notre avis pour exister, et il sera sans doute longtemps là parce qu'il est une composante essentielle de la modernité. Et en prenant peut-être un peu le risque de dire cela, je ne fais pas du tout une apologie du marché, mais je constate que l'entrée dans la modernité a été la découverte de la double centralité du travail et du marché. Et Adam Smith, d'ailleurs, a sans doute été le premier à le voir avec clarté, et évidemment, hein, depuis Adam Smith, les relations du travail et du marché se sont profondément transformées, au point de devenir souvent méconnaissable, mais cependant, nous sommes toujours dans cette conjonction parce que nous sommes toujours dans la modernité. Et il y a, par exemple, des différences immenses entre ce que Peter Wagner appelle la modernité libérale restreinte, hein, qui correspond à la phase d'implantation du capitalisme industriel, à la modernité organisée, qui correspond à l'apogée du capitalisme industriel, et la modernité actuelle, que je ne sais pas trop d'ailleurs comment nommer, mais bon, une hyper-modernité qui correspond d'ailleurs à la sortie du capitalisme industriel et à l'entrée, comme vous le savez, depuis une trentaine d'années, dans un nouveau régime du capitalisme. Alors, bon, les différences entre ces États sont immenses et néanmoins, nous sommes toujours, je crois, dans cette double centralité du marché et du travail. Ce qui signifie que le destin de l'immense majorité de nos contemporains continue à se jouer sur la forme que prend cette relation entre le travail et le marché. Et c'est même, à mon avis, plus vrai que jamais, parce que à cause de la mondialisation ou de l'empire, hein, c'est vrai aujourd'hui en Chine comme en France et partout ailleurs. Alors que sans doute au XVIIIe siècle et assez loin au-delà d'ailleurs, il restait de grandes parties de la planète qui n'étaient pas structurées par cette relation du travail au marché. Ben, aujourd'hui, il ne doit plus guère en exister. Alors, bon, si on admet cela, mais qu'on va évidemment certainement discuter, ça signifie que la position de gauche en la matière, ça n'est pas de récuser le marché, ce n'est pas non plus de bricoler dans les marges ou dans les interstices du marché, comme certaines tentatives, d'ailleurs au demeurant très, très respectables et que je ne critique pas, comme par exemple l'économie solidaire, qui sont sans doute des positions de gauche, mais qui ne présentent pas une réponse globale à la question que pose la présence générale du marché. Et il me semble qu'une réponse globale, si elle est possible, ce serait du côté des régulations générales du travail, hein, capables de l'encadrer ou de le domestiquer, pour reprendre à nouveau cette formule de Paul Hagny. C'est donc une sorte, on pourrait dire, de compromis avec le marché, et c'est pourquoi c'est une position réformiste, mais un compromis, ça ne veut pas nécessairement dire consensus mou, hein, et d'ailleurs le compromis social du capitalisme industriel, c'est qui a tenté, au fond, et d'une certaine manière réalisé cette articulation du travail et du marché, a été le résultat de luttes très fortes en même temps que aussi concessions. Et au fond, c'est toujours le résultat d'un rapport de force derrière. Mais il me semble que le défi à relever aujourd'hui, ça pourrait être d'imposer une sorte de nouveau compromis prenant en compte le fonctionnement du nouveau régime du capitalisme, bon, plus mobile, plus agressif, qui joue la concurrence exacerbée au niveau de la planète en prenant à contre-pied et en déstabilisant les régulations qui avaient été établies sous le capitalisme industriel, donc trouver une nouvelle forme d'équilibrage entre cette nouvelle dynamique en ce qu'elle comporte en partie d'irréversible et des exigences fortes du côté donc de la sécurité, de la protection des droits des travailleurs, hein, avec donc une articulation entre mobilité et sécurité. Alors, je sais bien que c'est plus facile à dire qu'à faire et qu'il y a aussi différentes façons de le faire ou de faire semblant de le faire qui ne correspondent pas à des exigences minimales d'un réformisme de gauche un peu structuré. Alors, je pense pas, bon, en tout cas que je puisse ici entrer dans le détail ces différentes version possible de ce qu'on appelle aussi la flexi sécurité dans des situations en particulier où le rapport de force, et c'est le moins qu'on puisse dire, n'est pas en faveur des salariés. Mais je donne seulement à discuter ceci, que si on est obligé d'accepter l'existence du marché, tout en luttant contre son hégémonie, alors le travail demeure le front principal des luttes politiques, effectivement. Et que c'est à partir des régulations générales du travail qu'on pourrait seulement domestiquer le marché. Le principe de la réponse étant de parvenir à contrôler cette mobilité du marché par de véritables droits à la sécurité et à la protection du côté des travailleurs. Et on pourrait éventuellement discuter de réponses qui se cherchent dans cette direction, du côté de la sécurisation des trajectoires de travail ou d'une sécurité sociale professionnelle telle que tente de l'élaborer la CGT, par exemple, mais je risque peut-être, en disant cela, d'aggraver encore mon cas. Hein. Donc, je préfère laisser la place à la discussion en ajoutant quand même un dernier mot pour que vous ne me preniez pas peut-être pour complètement ringard. C'est que je suis sincèrement convaincu qu'il est essentiel de prendre au sérieux les mutations intervenues dans l'ordre du travail depuis l'âge d'or du capitalisme industriel, et en particulier le développement du travail immatériel et le glissement vers une société de service. Et je pense par exemple au livre de Yann Yégoutan là, sur le capitalisme cognitif, et d'ailleurs à d'autres analyses du même type qui doivent être familières à beaucoup d'entre vous. Et personnellement, bon, je pense qu'elles sont importantes, qu'il faut les prendre en compte, mais aussi qu'elles n'invalident pas nécessairement la position que j'essaie de défendre. Et ceci pour deux raisons principales que je nomme d'ailleurs très rapidement, puisque c'est évidemment aussi à discuter. La première est que, bon, quelle que soit d'ailleurs l'importance de cette mutation du travail dans le sens du travail immatériel, je doute qu'elle recouvre jamais totalement le champ du travail, hein, et que donc il y aura toujours des secteurs importants du travail, dont la proportion d'ailleurs n'est sans doute pas évaluable aujourd'hui, mais qui constituent des formes de salariat relevant d'analyse, disons, plus classique du type de celle que je fais. Et deuxièmement, en admettant même que le travail immatériel prenne de plus en plus d'extension, et même à la limite qu'il devienne hégémonique, ça ne signifierait pas pour autant que la question de la sécurisation de ces travailleurs cesserait de se poser, et peut-être à certains égards au contraire, parce que dans beaucoup de cas quand même, la mobilité croissante des travailleurs ne signifie pas du tout un accroissement de leur indépendance ou de leur liberté, et c'est même souvent le contraire, hein, comme on le voit dans la situation de gens là qui travaillent quelque temps devant leur ordinateur pour un donneur d'ordre. Ils ne sont plus pris dans des collectifs, mais ils ne bénéficient pas non plus de protection collective. Et ils sont sous la dépendance totale du donneur d'ordre qui peut, par exemple, les virer du jour au lendemain. Et donc, cette liberté-là, enfin, n'équivaut pas à une absence de contrainte. Et je crois d'ailleurs que peut-être il faudrait repenser la notion de contrainte dans ces nouveaux espaces de travail. Hein, ce ne sont plus évidemment les contraintes de type de la division du travail taylorienne, mais je crois aussi, en n'oubliant peut-être pas, moi je crois que c'est un enseignement que je crois essentiel de l'histoire sociale du travail, c'est que c'est le collectif qui protège. Hein. ou du moins qui a protégé les travailleurs, un collectif de travail, convention collective, protection collective du droit du travail et de la protection sociale, avec d'ailleurs coiffant tout cet édifice le rôle de l'État, hein, l'instance du collectif par excellence, l'État social, garant du droit social. Et je ne pense pas que les travailleurs immatériels soient absents de cette problématique, car ils risquent de payer aussi cette absence de collectif, de droit et d'État, d'une absence de protection et d'une surexploitation. Mais je vais m'arrêter parce que, bon, là aussi, je crois que je continue à aggraver mon cas, parce qu'on voit que la position que je présente est aussi une défense, ou plutôt d'ailleurs un plaidoyer pour le redéploiement, bon, dans cette conjoncture nouvelle, de notions telles que celles de droit social et d'état social. Donc j'attends critique en disant, comme je le disais en commençant, que je souhaiterais avoir au moins un petit peu tort pour pouvoir défendre des positions plus radicales, mais je crains que ce soit impossible, et puis justement, ben, je vous remercie en tout cas de votre attention.